Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage au grand large aujourd'hui. Avec ses 5800 km de côte, la France occupe le deuxième espace maritime au monde. L'économie de la mer devrait donc être florissante. Mais la réalité est tout autre. Malgré ses 60 ports de pêche, l'Hexagone importe 85% de sa consommation de poissons et de crustacés. Un paradoxe que dénoncent les marins pêcheurs. Le port de la Turballe, dans le sud de la Bretagne, en Loire-Atlantique, occupe le 8e rang. L'an dernier, plus de 9000 tonnes de poissons ont été vendues sous la halle à marée pour une valeur de 27 millions d'euros. Mais au-delà de ces bons résultats, les marins pêcheurs s'inquiètent. Réglementation européenne et contrôle permanent freineraient leur activité. Pêcheurs en France ont-ils encore un avenir? Un grand reportage signé Patricia Lecomte.
Il fait encore nuit et seules les lumières blafardes de la criée indiquent qu'il y a de l'activité. À l'abri d'un vent glacial, les marieurs se retrouvent, comme tous les matins, dans la halle aux poissons pour participer à la vente aux enchères.
La vente a commencé à 4h30 ce matin. On a à peu près 30 tonnes de poissons sous criée. C'est la vente au cadran. Là, on vend un lot de merlu. Le crieur part à 4 euros et l'enchère descend. Et c'est adjugé à 3,08 un acheteur qui s'appelle Buquet.
Sébastien est responsable du bon déroulement des ventes. Durant 2h30, 3000 bacs posés au sol et remplis de poissons vont trouver acheteurs. Ce matin, 30 tonnes de différentes variétés seront écoulées.
On a des opérateurs de saisie la nuit qui récupèrent le poisson dans les frigos qui ont été débarqués par les bateaux. Nous, on déglace le poisson, on le pèse, on l'étiquette avec toutes les informations légales qu'il doit y avoir sur les lots. Et après, on étale le poisson dans la criée, bac par bac. On a des acheteurs qui ont des émetteurs, et c'est la vente au cadran, en chaire descendante. Pour un lot, le crieur va décider de partir à un prix, par exemple, de 2 euros sur un lot de macro, et le premier acheteur qui est intéressé appuie sur le bouton, et le lot lui appartient. Il est 6h du matin, dans une heure c'est terminé. À 9h30, les premiers camions partiront de la Turballe pour expédier le poisson dans toute la France. Et pour les poissonniers du coin, à 9h30, le poisson sera sur les étals, tout frais.
Pendant que les camions chargent leurs marchandises, Tony Le Huche, patron pêcheur, rejoint son équipage à bord de son chalutier, le Magaillan. Sa spécialité, la pêche pélagique. Elle se pratique en binôme. Deux chaluts remorquent un filet qui évolue en pleine eau, entre la surface et le fond, sans jamais le toucher.
Donc là, vous prenez la mer, ça y est, ouais. Vous partez. Combien de jours?
5-6 jours.
Vous déchargez et vous repartez tout de suite derrière?
Oui, en fait, là, on essaye sur le merlu, on essaye de faire des marées courtes pour valoriser notre poisson. Et les marieurs le savent, ils savent très bien qu'on sort ce matin. Le fait qu'on rentre dans 2-3 jours, c'est un gage de qualité. Donc, ça élèvera peut-être le prix. Donc, sur 5-6 jours, on va faire deux petites marées de 3 jours. On a ramené 4 tonnes en 3 nuits. Voilà, on pêche exclusivement la nuit. Je ne sais pas encore le prix, on m'a affiché un prix moyen tout à l'heure, qui reste malgré tout acceptable, même si c'est très bas.
Partir plusieurs jours dans des conditions climatiques parfois compliquées, sans savoir de quoi sera faite la pêche ni à quel prix elle sera valorisée, n'est pas aisé. Mais pour Tony Le Huche, le plus dur n'est pas là. Il fustige le poids de la réglementation dictée par la Commission européenne qui leur impose des quotas sur certaines espèces.
Nous, on préférait des quotas pluriannuels pour avoir une vision plus large sur, par exemple, 4-5 ans, quoi, sur la vie d'un poisson. Nous remettre en question tous les ans, à la fin de l'année, pour un quota annuel, c'est vraiment compliqué. Et psychologiquement, c'est dur à attendre parce que tous les ans, c'est la sanction, quoi. C'est le coup près qui tombe. Ça peut avoir un fort impact sur les exploitations, quoi, tout simplement.
C'est ce qui s'est passé pour l'anchois.
L'anchois, ça s'est passé en 2005. On a une décision arbitraire sous lobbying espagnol. Les bateaux, il a fallu qu'ils rebondissent, reporter leur effort de pêche sur autre espèce qui n'arrange pas forcément les affaires des autres marins pêcheurs qui n'allaient pas aux anchois. Pour parler de la turbale, depuis la fermeture de l'anchois, parce que les deux ports qui exploitaient cette espèce étaient Saint-Gilles, Croix-de-Vie et la turbale et quelques-uns à Lorient, vous avez la moitié des bateaux qui sont partis. Donc finalement, pour ceux qui voulaient diminuer l'effort de pêche comme ils l'ont fait d'une manière arbitraire, ça a bien fonctionné.
Après la fermeture de l'anchois, il y a 3 ans, les pêcheurs ont dû faire face à la fermeture du bar. Et aujourd'hui, ils sont inquiets pour la sole, car le quota diminue d'année en année. La profession se sent délaissée par le gouvernement, qui ne leur a pas attribué de ministre de la mer.
On a connu les périodes Le Pain Sec, il y a 20 ou 30 ans, on avait quand même des ministres à la mer. Donc on sent le moindre intérêt pour la pêche. J'imagine qu'il y a d'autres échanges qui se passent en fonction de ce qu'on rétrocède sur les quotas, par exemple, sur les échanges probables qu'il peut y avoir entre « je te laisse un peu de quota de ci, je te donne un peu de quota de ça » ou des arrangements autres que la pêche, je ne sais pas. On peut tout imaginer. Enfin, nous, par rapport à certains homologues espagnols, on voit bien que l'Europe essaye de lisser, mais c'est, nous, on nous lisse à la baisse, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que les Espagnols, comparé à la pêche française, c'est une grosse économie. On sait très bien qu'ils sont très bien représentés, très bien défendus. C'est quand même impressionnant qu'on les voit sur l'eau.
Et ce qui génère des conflits.
Dans les eaux françaises, on sait très bien que maintenant, il y a autant de bateaux espagnols qui pêchent le merlu que les Français eux-mêmes. Et en plus, il me semble que les Espagnols ont plus de quotas de merlu, ou autant toujours, pour parler du merlu, que les Français eux-mêmes dans leurs propres eaux. Et ça s'est fait quand la pêche française allait mal il y a 20-30 ans. Il y a des investisseurs espagnols qui ont acheté des bateaux français, qui ont conservé les droits français et qui font naviguer des Espagnols dessus. Bon, c'est un système qui existe et c'est une façon de détourner, ça fonctionne.
Bonne pêche, je vous souhaite. Ah, ça se dit pas alors. Merde alors, je dis. Ok, ouais. Au revoir.
Le jour se lève, les marins restés à quai se retrouvent au bar pour un café. Jocelyn et Olivier sont pêcheurs depuis l'âge de 16 ans. Ils pêchent indifféremment sur des chaluts côtiers ou pélagiques. Pour eux, leur problème numéro un, c'est la réglementation. Olivier déplore que la gestion des stocks soit entre les mains de technocrates.
Aujourd'hui, on voit qu'on est quand même géré par la communauté européenne qui nous dit « pêchez ci, pêchez ça, faites ci, faites ça ». Alors que ce n'est pas la réalité, parce qu'aujourd'hui, le marin-pêcheur est capable de gérer son stock de poissons. Nous, on sait très bien où le poisson pond, on sait très bien où le poisson se reproduit, et on n'a aucun intérêt, nous, aujourd'hui, d'aller couper la branche sur laquelle on est. Pour nous, l'Europe n'est pas une bonne chose. Je parle pour beaucoup de marins pêcheurs.
C'est un réfrigérant de réducteur, il est bon comme ça. Gros comme ça, c'était pour les Warner et les...
Au point que certaines espèces sont de plus en plus présentes.
Le thon rouge qu'on remet à l'eau, parce qu'il n'y en a plus, mais qu'on en pêche plein, tellement on en voit. On a un quota qui représente 3 fois rien. Le problème qu'il y a, c'est que le poisson, quand il est pêché, ben, il est mort et on le remet à l'eau. Voilà. Même les pêcheurs côtiers voient du thon rouge bientôt pêcher au chalut. Donc c'est que la ressource, elle est là. On est aujourd'hui géré avec des gens qui viennent sur le bateau voir comment ça se passe, ce qu'on pêche, ce qu'on ramasse. Surtout qui viennent voir ce qu'on jette à l'eau. Ça, ce serait bien. Et tu dis effectivement, bah, tiens, c'est quand même dommage que ce soit l'arrêt de la sole, du bar, qu'on doit remettre à l'eau. C'est complètement stupide, mais c'est du gâchis. C'est du gâchis.
Alors que la France possède la plus grande façade maritime en Europe, Olivier constate que d'autres pays produisent bien plus que les pêcheurs français.
Quand on voit la Norvège, l'Islande, qui ont quasiment le double de pêcherie que nous, c'est que quelque part il y a un sérieux problème. Moi, personnellement, je pense qu'on va créer des fermes, on va produire du poisson d'élevage. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Le peu de marins qui restera, ben, ce qui pêchera, les rejets serviront à nourrir ces poissons-là. En sachant que, d'après les scientifiques, il faut pêcher 4 fois ou 5 fois plus de poissons dans la nature pour nourrir du poisson d'élevage. Le système, pour moi, est néfaste. Mais bon, après, il y a des gens aujourd'hui qui crèvent de faim en France. Manger du poisson, c'est bientôt arrivé un luxe. Et aujourd'hui, nous, on jette du poisson en l'eau parce qu'on ne peut pas le vendre. Parce que des Européens ont dit qu'on pêchait trop de ceci, trop de cela. C'est pas vrai, c'est des conneries. Par contre, on veut nous faire ramasser les rejets. Le marin, aujourd'hui, on est incapable de dire le rejet, comment il va être géré. Alors, on va être payé comment? Parce qu'on va faire le travail, on va plus remplir nos cales de rejets que d'espèces nobles qu'on peut vendre. Pour moi, aujourd'hui, si on veut arrêter le métier, eh ben, faut qu'il continue comme ça. Point barre.
Jocelyn Pechlebar, il se dit désabusé. Il est persuadé qu'il y a en France une volonté politique de ne pas soutenir la filière pêche.
On fait partie des derniers hommes préhistoriques, des chasseurs-cueilleurs. On cherche à nous éteindre complètement.
Et pourquoi ?
Je dirais que c'est le problème européen. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont définies en Europe. C'est-à-dire que la France, c'est le tourisme, l'Espagne, c'est la pêche, l'Allemagne, c'est l'industrie. Tout était déjà défini quoi, au niveau européen. On nous prend des lois complètement absurdes. Par exemple, on n'a plus le droit de pêcher le bar en Manche. Soi-disant qu'il n'y avait plus du tout de bar en Manche, qu'on avait tué complètement le bar, qu'il n'y en avait plus du tout. Donc on nous a interdit le bar en Manche et on se retrouve à pêcher sans le vouloir, en visant des espèces comme les encornets. Ça nous arrive de pêcher des coups de 10 tonnes de bar qu'on est obligé de refoutre à l'eau. Donc du poisson qui est mort, qui ne revivra pas, est obligé de le refoutre à l'eau. Alors je vois en aucun cas ce qu'il y a d'écologique là-dedans.
Au-delà des interdictions, il y a également les contrôles. Les affaires maritimes surveillent de très près ce qu'il se passe à bord des bateaux. Et chaque jour, les patrons pêcheurs doivent communiquer la quantité et la nature exacte de leur pêche. Les affaires maritimes peuvent monter à bord à tout moment et contrôler la réalité des déclarations. Une pratique avec laquelle Jocelyn a du mal.
Aujourd'hui, je pense qu'on fait partie d'un des métiers qui est le plus fliqué de France. On n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre écart, c'est sanction directe. Il n'y a plus d'entrain, je dirais. Et les jeunes, malheureusement, se tournent plus trop vers ce genre de métier. C'est plus un métier d'avenir.
Des propos confirmés par le directeur de la criée, Max Paladin.
On ne se rend pas bien compte, mais le métier de pêcheur doit être un des métiers les plus contrôlés et les plus bordés par des normes. Qui existe. La réglementation de la pêche, la réglementation technique fait plusieurs centaines de pages. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est capable de dire à 100% je suis dans les clous de la réglementation, tellement elle est complexe. Donc il y a un couperet permanent. On est allé jusqu'à la réglementation prévoit des sanctions sous forme de permis à points, par exemple. C'est-à-dire que un pêcheur qui va commettre des infractions, en fonction, bien sûr, c'est modulé en fonction des infractions, peut se voir attribuer des points à lui et à son bateau. Et au bout d'un certain nombre de points, l'administration peut dire « Monsieur, vous arrêtez de travailler pendant une semaine, un mois. Bien sûr, vous ne serez pas payé. » Ça n'existe nulle part ailleurs. Par définition, par défaut, vous êtes des délinquants. C'est ça le sentiment en disant « Je ne suis pas pêcheur, je suis délinquant potentiel, permanent. » Donc en permanence, on va me reprocher quelque chose.
Et parfois, les amendes pleuvent, même à terre.
L'administration retrouve chez un poissonnier un poisson qui ne fait pas la bonne taille. Il y a des tailles minimum de vente, d'accord ? Eh bien, ils ont trouvé que ce poissonnier avait, entre autres, acheté ce poisson sous une criée à un bateau. L'amende a été pour le poissonnier, mais également pour le bateau. Alors que rien ne prouve que le poissonnier n'avait pas acheté le poisson à quelqu'un d'autre, mais comme il avait une trace d'un achat à ce bateau-là, le bateau, lui, s'est retrouvé à payer 700 euros. Et ce bateau, ce patron, va pas essayer de lutter contre ça parce qu'il sait qu'il va se heurter à des murs. Et que son boulot, c'est d'être en mer, c'est pas d'être devant les tribunaux.
Si aujourd'hui les patrons pêcheurs de la Turballe s'en sortent, c'est parce que le prix du gasoil est bas et que leurs bateaux sont amortis. Mais la flotte arrive en bout de course et la renouveler coûte très cher. Un chalutier neuf de 12 mètres, c'est 850 000 euros. Un de 24 mètres, entre 3 et 4 millions d'euros, en fonction de l'équipement à bord. Impossible dans ces conditions pour un jeune de s'installer. Max Paladin se montre peu optimiste pour l'avenir.
Tout le monde sait qu'on va vers un mur, à la fois parce que la flottille de pêche est de plus en plus vieille, c'est-à-dire que l'âge moyen des bateaux dépasse les 30 ans. Un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, il va se retrouver à acheter un bateau d'occasion qui est un vieux bateau, donc avec des coûts d'entretien énormes. Et la grande inquiétude, c'est l'âge moyen des marins pêcheurs qui ont pour la plupart plus de 50 ans ou qui approchent la cinquantaine, sachant que l'âge de départ à la retraite dans ce métier, c'est 55 ans. Compte tenu de la pénibilité. Et donc, on a une absence de renouvellement des hommes et des navires qui fait craindre pour l'avenir.
La profession attend un sursaut de la part des pouvoirs publics. Max Paladin, tout comme les marins pêcheurs, doute des capacités de la classe politique à vouloir apporter des solutions. Pourtant, elles existent.
Je pense que tout le monde, les politiques compris, sont conscients du problème. Maintenant, on n'a pas l'impression que des mesures sont prises pour essayer d'y remédier. Ça fait plus de 20 ans qu'on demande des efforts aux pêcheurs français et européens, en particulier aux pêcheurs français, et qu'il serait peut-être temps de capitaliser aujourd'hui tous ces efforts. Ces efforts, ils ont mené à quoi? Ils ont mené à des stocks de poissons qui vont mieux pour la majorité d'entre eux. Et donc, on devrait pouvoir mettre en place une véritable politique de renouvellement de la flottille à puissance égale. Il n'est pas question d'augmenter les efforts de pêche, mais simplement à effort de pêche égal, pouvoir renouveler la flottille, mettre en place des mécanismes pour pouvoir aider au financement de nouveaux bateaux, que ce soit des incitations fiscales nationales, et puis aider également, réellement aider de jeunes pêcheurs à investir dans de nouveaux bateaux. Il faut également pour ça leur donner une lisibilité. Au jour d'aujourd'hui, on est encore à gérer les efforts de pêche d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'il faut attendre la fin décembre pour savoir quelles vont être les quantités de pêche potentielles disponibles pour l'année d'après. C'est comme si un entrepreneur, il fallait qu'il attende le 15 décembre pour savoir quel va être son chiffre d'affaires potentiel de l'année suivante. Donner une visibilité sur plusieurs années en disant, voilà, pour les 3 prochaines années, le quota sera de temps. Ce qui permet de donner une lisibilité économique à la filière et à ses financiers.
Pour Max Paladin, il y a urgence. Les enjeux vont bien au-delà des enjeux économiques.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France, avec son territoire maritime, est loin d'avoir la place qui lui revient au niveau européen et au niveau mondial.
Et ça s'est dégradé depuis ces 20 dernières années?
Bah écoutez, aujourd'hui, quand vous mangez un poisson, ce qu'on mange, il y a 75 à 80% de ce qu'on mange, des poissons qu'on consomme, qui sont pas français, qui sont importés. Ça vient d'Europe, ça vient de Norvège pour le saumon, ça vient d'Asie pour la crevette ou d'Amérique du Sud, ça vient de Grèce pour les poissons d'élevage ou de Turquie. On dépend à 80% de produits qui viennent de l'étranger. Et quand c'est des produits qui viennent de l'autre côté de la Terre, on n'a aucune garantie que ce soit sanitaire, social, environnemental, de la façon dans laquelle ils sont produits. Donc à force de taper sur les producteurs français, la conséquence, c'est qu'on aggrave des situations, on encourage en fait des situations beaucoup plus dramatiques, mais loin de nous, on ne le voit pas. Et donc c'est peut-être plus simple. Mais si on continue effectivement à taper sur les, en particulier sur la pêche française, demain ce sera peut-être 100% qu'on importera. On aura perdu notre indépendance. On a déjà perdu une grande partie de notre indépendance alimentaire en matière de produits de la mer, mais demain on pourrait être totalement dépendant de l'importation si on continue à taper sur la pêche française. On risque d'avoir des eaux pleines de poissons, mais plus personne pour les pêcher.
C'est l'heure du déjeuner, la pause pour les marins qui se retrouvent chez Tonton, repère incontournable de pêcheurs. Jocelyn partage son repas avec ses compagnons de mer. Malgré leur sourire, ils se disent tristes et en colère. Jocelyn est persuadé que son métier est menacé.
Condamné, puisque les bateaux, il y en a de moins en moins. Ils ont ouvert des plans pour détruire des bateaux, donner de l'argent pour détruire des bateaux. Il n'y a plus de bateaux, il n'y a quasiment plus de bateaux neufs. Les jeunes qui veulent se lancer, c'est quasi impossible. Les banques ne font plus de prêts. Le peu de bateaux d'occasion qui reste, ils sont quand même assez âgés. Donc le jeune qui se lance se retrouve avec des problèmes techniques et donc financiers dès le début. Ils ont diminué la flottille, je dirais quasi de moitié. Elle n'est toujours pas renouvelée et tout est fait pour qu'elle ne soit pas renouvelée. Tout est fait pour qu'on disparaisse à mesure. C'est une catastrophe. On est là pour gagner notre vie, on est là pour nourrir les gens comme les paysans. Donc nous, on a toujours une mentalité de bosseur, on n'a jamais rechigné sur le boulot et on nous a toujours foutu des bâtons dans les roues. Donc il arrive un moment où on en a un petit peu ras-le-bol là. On est vraiment pris pour des moins que rien. De toute façon, on fait partie des grassous de la marine, des marins pêcheurs, par rapport au commerce ou à la nationale. On nous a toujours pris pour des moins que rien. Maintenant qu'ils viennent en mer avec nous et qu'ils viennent voir, que ce soit au niveau écologique, personne ne vient jamais.
Mais il a la cuirasse épaisse et tant qu'il le pourra, il défendra son métier.
On a un peu moins de niaque qu'avant, mais on l'a toujours. Hein. On se défendra jusqu'au bout.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à toujours boire du bon.
Pêcheur, aujourd'hui en France, quel avenir? Un reportage de Patricia Lecomte, à la réalisation Sandrine Straram.
Boute, 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 compagnon, vide dans son verre et nous le remplirons.